Le balado de FACNET, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digestes les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve la lecture, on vous libère des infolettres, on vous accompagne dans votre facturation. Si vous êtes hématologue ou pédiatre, le balado est spécifiquement fait pour vous. On vous parle de l'endordome 6 et 13 en hémato et du programme Agirto en pédiatrie. On vous parle des nouveaux codes, des abolitions, des modalités de facturation et des scénarios honoraires possibles. C'est parti! Bonjour, bienvenue au balado de facturation.net. Mon nom est Christina Campion, conseillère senior chez FACNET. Et je suis, comme toujours, accompagnée de Nicolas Bellemare, directeur du développement d'affaires et de l'expertise. Allô, Nicolas?
Allô, Christina, bien content d'être là.
Moi aussi. Et nous sommes accompagnés de la merveilleuse coordonnatrice Vanessa Lemelin. Comment ça va, Vanessa?
Ça va très bien, merci, Christina.
Je pense que, Christina, au début, on va parler des hématologues. Il y a eu une refonte majeure de leur entente. Ça touche les services de laboratoire en établissement, ça touche les visites, ça touche tout.
Nous allons débuter avec l'addendum 6, c'est les services de laboratoire. Premièrement, il faut savoir que tout ce qui est 1606, c'est-à-dire formulaire d'assurance hospitalisation, ça a été aboli le 30 juin 2023.
Les formules sanguines, etc., etc., on a envoyé ça, donc 13 périodes par année, là, le fameux formulaire 1606 qui devait être signé par un signataire autorisé, puis qu'à ce moment-là, qui a été envoyé papier à la RAMQ. Tout ça, c'est finalement aboli.
Terminé, oui.
Enfin, c'est une bonne nouvelle.
Effectivement. Suite à ça, ben, ils ont aussi aboli toutes les notions de groupe A versus groupe B.
OK, ça, c'est une autre bonne affaire parce que c'était plus réellement d'actualité en 2024. Là.
C'est vrai. Donc maintenant, tous les hématologues, qu'ils soient groupe A ou groupe B, facturent de la même façon, finalement, les mêmes codes.
1606 est aboli, ça, c'est réglé, parfait. Le nouvel addendum 6, là, on parle de quoi? Là? Ça mange quoi en hiver?
Les services à laboratoire, donc bien sûr, ils n'ont pas aboli les 1606 sans rien faire. Hein. Fait que en fait, ils ont créé de nouveaux codes. Les codes qui sont facturables à l'acte, donc c'est des forfaits. Okay. Plus de signature, plus d'envoi papier à la RAMQ.
Donc, plus de délai de traitement.
Exact.
Pas d'oubli. Exemple, le DSP, finalement, il était en vacances, puis que là, le formulaire n'a pas été signé, il fallait aller en dérogation, en révision, etc.
Donc, en fait, on parle des codes 50 007 à 50 012. Donc, si on pense aux 50 007, donc 50007, bien, en fait, c'est pour les activités clinico-administratives. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, c'est toutes les activités qui sont à l'exception des banques de sang.
Donc, c'est la gestion du labo, finalement, la gestion clinico-admin du labo.
Donc, on a la mise en place et le respect des normes pour le laboratoire d'hémato. On a la pratique collaborative avec le personnel scientifique et technique du laboratoire. On a l'implantation et le suivi du système d'assurance qualité. En fait, on parle d'un forfait à 280 $ de l'heure.
OK.
Et très important de savoir que les activités clinico-administratives, donc on parle des codes 50007 et 50008, peuvent être facturées seulement si on parle d'une activité de 60 minutes continue, complétée. Donc, et par la suite, pour la dernière heure, ça peut être au prorata de 15 minutes complétées.
Donc, autrement dit, 280 $ de l'heure, première heure. Par la suite, 70 $ par période de 15 minutes. Par 15 minutes complétées, parfait.
Exact. L'heure des services n'a jamais été aussi importante. Parce que tous les actes que le médecin facture cette journée-là, on doit mettre l'heure de début des services exact. Là. Donc, il faut le mettre toujours. Parce que si on facture une visite en plus d'un code de l'entente, bien, c'est certain que ce que la RAMQ va faire, c'est qu'il va refuser la visite.
Si je commence là, ma journée un mardi matin de 7h à 9h30, donc en faisant vraiment des 50 007, donc autrement dit, il faudrait vraiment que je facture mon code de 7h AM à 9h30 AM. Et par la suite, on me demande en consultation à l'urgence, ça va être important que je mette l'heure à laquelle j'ai été demandé en consultation à l'urgence.
Exactement.
Donc, pour tous mes codes de la journée, donc autrement dit, mes patients hospitent, peu importe ma clinique externe, ça me prend les heures. Donc, autrement dit, il faut prouver à la RAMQ qu'on ne fait pas du double dipping, qu'on n'est pas payé en double.
Exactement. Puis, pour ce qui est du 50 008, c'est aussi des activités clinico-administratives, mais vraiment en lien avec les banques de sang.
Après ça, les autres codes, on a le fameux code 50 009.
Oui.
On dit activité d'interprétation des tests réalisés dans les différents secteurs du laboratoire.
Exact.
Sauf greffe de cellules souches, sauf thérapie cellulaire.
C'est ça.
Et si plutôt c'était les tests pour la greffe de cellules souches et les thérapies cellulaires, là, ça serait mon code 50010.
Exact. Puis tous ces codes-là, on peut aller jusqu'à un maximum de 7 heures par jour.
7 heures par jour fois 280 de l'heure. Parfait.
Okay. Ils sont payables du lundi au vendredi, sauf une journée fériée. Donc, de 7 heures à 19 heures.
De 7 heures à 19 heures. OK. Oui. Lorsqu'on est de garde, par contre, il y a des particularités. Il y a deux codes qu'on peut facturer. Donc, on dit les codes 50011 et les codes 50012.
Oui.
Donc, 50011, activité d'interprétation des tests réalisés lors de la garde en dispo. Puis le 50012, donc activité spécifique à la greffe de cellules souches et de thérapie cellulaire.
C'est ça.
Si on est de garde cette journée-là, qu'on facture le forfait de garde, le maximum de 7 heures par jour peut être dépassé.
Effectivement.
Et en plus, on dit lors de la garde en dispo, les activités d'interprétation des tests peuvent être effectuées à distance.
Oui, puis si on le fait, c'est important de savoir comment le facturer, hein? Donc, le lieu de dispensation va toujours être l'établissement où est-ce que le médecin aurait dû se rendre ou où est-ce qu'il aurait dû lire les interprétations de ces codes-là. Par contre, dans son lieu en référence, il va aller mettre où est-ce qu'il était physiquement. Puis s'il le fait à distance, c'est vraiment dans les établissements où est-ce que, normalement, c'est pas sa pratique principale.
Donc là, qu'est-ce que j'ai lu aussi, c'est que l'annexe 19 s'applique. Donc, autrement dit, si je fais ça en direct de Alma, à ce moment-là, c'est que j'ai le droit à mon 125%, par exemple. Et si on est au mode mix, c'est payé à 62%.
Oui, 62%, t'as raison.
OK, donc 280 fois 62%. Dis-moi, Vanessa, là, si je fais ça justement durant une période de garde en dispo de 20h à minuit ou de 2h à 4h du matin parce que je fais de l'insomnie, j'ai-tu le droit d'être payé à 280 avec mon SUG, donc payé plus cher?
Non, les soins d'urgence ne peuvent pas être facturés avec ces codes-là.
OK, donc c'est vraiment un 280 de l'heure, 62% au mode mix ou 280 fois ma majoration supplémentaire si je suis en région.
Oui.
Mais il n'y aura jamais de SUG de soins d'urgence rajouté à ça.
Non.
OK, parfait, c'est simple. Donc, l'autre nouveauté, c'est que si on doit se déplacer à plus de 40 km pour effectuer une des activités prévues à l'addendum 6, à ce moment-là, on a le droit à nos frais de déplacement, donc le temps puis le kilométrage.
Exact.
Si on poursuit avec l'addendum 13, par où on commence exactement?
Il y a beaucoup de petits codes qui ont été rajoutés ou qui ont été modifiés en termes de libellé. Notre fameux code 19-869 a été augmenté. Il est passé de 169 et 76 à 280 Très important pour le code 19-869, qui est la participation aux cliniques des tumeurs. L'important, c'est que c'est maximum 3 codes 19-869 par semaine. Donc, on dit bien du dimanche au samedi. On dit maximum d'une évaluation par médecin par jour pour une même clinique des tumeurs. Donc, autrement dit, si je veux en facturer 3, c'est sur 3 journées différentes. Et autre nouveauté, Christina, c'est que dans les faits, désormais, au préambule général, la règle 11.2 a été ajoutée. Qu'est-ce que fait la règle 11.2? C'est que dans les faits, elle amène un plafonnement de gains de pratique pour l'ensemble des visites et des procédés diagnostiques thérapeutiques, ainsi que pour le per diem. Donc, si des médecins hématologues étaient payés selon l'annexe 38, on dit en partant que si on est en cabinet, comme de raison, on ne tient compte que de 75% des gains, parce que rappelez-vous qu'il y a quand même un 25% qui va servir à payer vos frais de bureau. Lorsqu'on va parler d'un médecin qui va gagner entre 700 000 et 799 000, donc entre 700 et 800, la partie entre 7 et 800 va être payée à 50%. Lorsqu'on va dépasser 800 000, l'excédent va être payé à 25%. Et si jamais on dépassait 900 000 de revenus dans l'année, à ce moment-là, l'excédent de 900 000 serait payé uniquement à 10%. Mais c'est quand même un plafond qu'on va dire généreux, parce que c'est rare quand même qu'on voit ce genre de revenus là, dépasser 900 000 en hémato, là. Autre changement, Christina, le protocole d'accord concernant la médecine transfusionnelle au Québec est remplacé. Donc, auparavant, on facturait le fameux code 9779. Désormais, on va plutôt remplacer le code 9779 par les codes 9852 et 9853. Ça nous donne encore une fois un fameux tarif horaire. C'est le même tarif horaire que tout à l'heure. On donne 280 de l'heure. Donc, même chose que l'addendum 6. Donc, on dit 9852, c'est quoi? Bon, ouais, tout ce qui est planification, gestion, contrôle des activités transfusionnelles. Puis, lorsqu'on va participer à la table de concertation en médecine transfusionnelle et aux tables ministérielles, on va utiliser plutôt le code 9853. Donc, encore une fois, c'est maximum 7 heures par jour. Encore une fois, on pourrait, si on est de garde, on pourrait le facturer de soir ou la fin de semaine avec le code 9854. Puis normalement, en plus de ça, on peut même avoir nos frais de déplacement lorsqu'on doit participer à des réunions, par exemple, ou qu'on doit faire des activités qui seraient à plus de 40 km de notre domicile. Donc, à ce moment-là, ça nous permettrait d'être payé pour notre temps et nos frais de déplacement.
J'ai vu qu'il y avait des nouveaux codes de visite pour la Dordum 13. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce en quoi ça consiste?
Premièrement, la règle 2.1. La mise en œuvre. C'est quoi la mise en œuvre? On dit la visite qui permet d'établir et de prescrire un nouveau plan de traitement pouvant comprendre plusieurs séquences thérapeutiques. Comme ça inclut le supplément de consultation, il faut toujours se dire qu'on ne pourra pas facturer une consulte puis après ça une mise en œuvre. On s'entend parce que ça inclut le supplément de consultation. On dit que la prorogation d'un traitement en cours, la modification d'une dose d'agent antinéoplasique ou le renouvellement d'une séquence répétitive d'un agent ou d'un groupe d'agents ne constitue pas une nouvelle mise en œuvre. On dit après ça que la prescription de la corticothérapie, de l'hormonothérapie ne constitue pas une mise en œuvre. Aucune autre visite ne peut être facturée le même jour qu'une mise en œuvre par le même médecin pour le même patient. Christina, on pourrait rappeler aussi certaines des règles spécifiques pour l'hémato-onco. En partant, on sait que les horaires de visite de contrôle en hospice, de tournée des malades de week-end, les visites 15, 616, 627, 641 ne sont facturables qu'une fois par jour par patient, par médecin au total pour l'ensemble.
Cette règle-là s'appliquera pas si tu mets certains éléments de contexte.
Tu as parfaitement raison, Vanessa. Effectivement, il faut mettre l'élément de contexte. Visite effectuée à la demande d'un autre hémato-oncologue médical. Ça permettra au deuxième hémato-onco de pouvoir facturer sa visite. Bien entendu, à ce moment-là, c'est qu'il faudrait que ça soit médicalement requis. J'ai besoin de l'expertise d'un autre médecin en hémato-oncologie médicale. Si dans les faits, on met le contexte soins d'urgence, à ce moment-là, encore une fois, la limitation ne s'applique pas. C'est-à-dire que mon patient ne va pas bien. En temps normal, le patient aurait dû se présenter à la salle d'urgence, mais normalement, comment qu'on fonctionne en hémato-onco, c'est que le patient va pouvoir se présenter directement à la clinique d'hémato-onco. À ce moment-là, si on met le fameux élément de contexte soins d'urgence, ça va me permettre de me faire payer ma deuxième visite en clinique externe durant la semaine.
Et là, Nicolas, ce qu'il faut spécifier aussi, c'est qu'on parle des éléments de contexte pour les gens de FACNET, c'est le dièse UR et le dièse SUG.
La dernière règle, le fameux supplément de consultation qui n'est valable qu'une fois par période de 3 mois en clinique externe. Encore une fois, pour l'ensemble des médecins classés en hémato-onco dans le même établissement, il y a une exception. Si j'ai besoin de l'expertise d'un autre médecin en hémato-onco, à ce moment-là, cette règle-là ne s'applique pas. Il suffit de mettre le bon élément de contexte. Et ça ne s'applique pas non plus pour une consultation effectuée lors d'une évaluation de greffe de cellules souches. Ça, j'ai de la misère à le dire tout le temps, là. Hématopoétique. J'espère que je l'ai dit comme il faut.
Oui. C'est le A416.
L'important pour l'hémato-onco, c'est vraiment d'apprendre et de connaître la nouvelle nomenclature, donc l'addendum 13. On vient de créer des nouvelles catégories de visites et c'est vraiment relié à des conditions médicales précises. Si vous êtes médecin répondant à la salle de traitement ambulatoire du cancer, donc ça, c'est pour les patients qui vont recevoir des agents antinéoplasiques, des gamma-globulines spécifiques ou polyvalentes par voie parentérale. Il faut savoir qu'il y a les codes 15-927 à 15-931 qui s'appliquent selon le nombre de patients, donc entre 5 à 10 jusqu'à 41 patients et plus, donc les montants diffèrent, bien entendu. C'est un montant par demi-journée. C'est entre 200$ jusqu'à 800$ par demi-journée, tout simplement. L'addendum 6, l'addendum 13 viennent quand même simplifier la manière de faire la facturation parce qu'on a abandonné les 16-06, mais de l'autre côté, ils viennent quand même complexifier la facturation parce que maintenant, c'est selon le type de traitement que le patient a, selon la situation du patient. Donc, c'est très important de lire et de comprendre les deux addendums. Si on fait partie de la médecine transfusionnelle, de faire la même chose, lisez et comprenez vos nouvelles ententes.
On a beaucoup parlé d'hémato. Si on passe maintenant au programme Agirto en pédiatrie, qu'est-ce qui est primordial à connaître?
L'annexe 48, c'est le programme Agirto. Et ça a commencé le 6 avril 2023. Donc, c'est important, il va y avoir des pédiatres répondants et des pédiatres consultant. Donc, il y a deux types de médecins dans ce programme-là. Le pédiatre répondant n'a pas de contact direct avec le patient concerné. Ça, c'est important. L'important, c'est que pour le pédiatre répondant, c'est un montant de 300 $ de l'heure. C'est pour une période d'activité continue de 60 minutes et c'est pour un maximum de 7 heures par jour. Et la dernière heure, c'est au prorata des 15 minutes complétées.
Puis, si je ne me trompe pas, Nicolas, c'est facturable du lundi au vendredi?
Oui, c'est uniquement du lundi au vendredi. Et l'important, dès qu'on va facturer comme pédiatre répondant, si on fait d'autres types d'activités dans la journée, on va devoir inscrire l'heure de début de tous les autres services facturés la même journée. Donc, exemple, on est vendredi matin, de 8h à midi, je fais mes tâches comme pédiatre répondant. À ce moment-là, bon, ben, je vais facturer 300 $ fois 4 heures. En après-midi, j'avais la clinique externe. Ben, à ce moment-là, je vais devoir mettre les heures réelles de tous les services que j'ai facturés. Sinon, la RAMQ, d'emblée, va tout simplement les refuser.
C'est quoi le code qu'on facture?
C'est le code 19734. Et c'est un code qui n'a pas besoin de numéro d'assurance maladie, puis c'est normal, c'est logique, parce qu'on ne voit pas de patient.
C'est un forfait, dans le fond.
Exactement, c'est un forfait, Vanessa.
Puis est-ce que je me trompe ou le pédiatre répondant doit être désigné?
Oui, le pédiatre répondant est désigné par le comité paritaire, effectivement. Le pédiatre répondant qui doit remettre un rapport écrit après ses activités de soutien rendues à la demande du médecin ou des intervenants du programme, va être payé aussi avec le code 15052, préparation et transmission d'un rapport. Donc, le code va donner 125 $ pour chacun des rapports. Encore une fois, il n'y a pas de numéro d'assurance maladie. Si jamais on était payé au mode mix, parce qu'il y a beaucoup de pédiatres de payés au mode mix au Québec, donc il faut savoir que le 300 $ de l'heure va être payé à 80%, mais les rapports, donc le code 15052, lui, va être payé à 100%. Qu'est-ce qui est important, c'est que le pédiatre consultant, c'est celui qui va prendre en charge la clientèle du programme suivant une demande de consultation ou d'un intervenant ou d'un médecin du programme.
Est-ce qu'il doit être désigné, Nicolas?
Non, lui n'a pas besoin d'être désigné. Donc, ça peut être n'importe quel pédiatre. Il ne doit pas prendre les codes de consultation normale. Il doit absolument prendre les codes qui sont prévus dans l'entente Agir tôt. Donc, exemple, le code 15503. 15053, je viens de faire un peu de dyslexie, j'aurais dû voir un pédiatre quand j'étais jeune. On dit consultation à la demande d'un intervenant, durée minimum 60 minutes, ça donne un montant en cabinet de 334,85. Et si jamais ça dure plus de 60 minutes, c'est important là, c'est un montant de 33,50 par période de 15 minutes complétées supplémentaires et c'est bon pour un maximum de 3 heures, donc 180 minutes. Si jamais le patient était sous la supervision de la DPJ, il y aurait un supplément de 48,55. Si on doit rencontrer des intervenants ou un parent pour le programme Agir tôt, on dit que c'est maximum de 90 minutes par séance. Donc, c'est un montant de 67 $ par 15 minutes. Donc, on dit que c'est le code 15055. Ça va être important que si on est en clinique externe, qu'on connaisse nos bons codes d'acte. Et que si on est dans un contexte de cabinet, qu'on prenne les codes, bien entendu, de cabinet.
C'était beaucoup de contenu, mais on y est arrivé. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos hématos et nos pédiatres?
Comme il y a des nouveautés, ça veut dire qu'il va même avoir des ajustements de la RAMQ, on le sait, là. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entente, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, les systèmes de la RAMQ vont répondre des fois pas de la bonne manière ou il va y avoir des fois des modifications, il va y avoir des ajustements qui vont être négociés par les tables de négo. Donc, c'est important de lire les prochains communiqués. C'est important que s'il y a des aberrations sur les états de compte, de parler avec votre agente de facturation, votre conseillère ou même de parler dans certaines situations avec votre association. Parce que ça arrive régulièrement que l'association voulait que ça fasse tel résultat, mais que finalement, pour diverses raisons, ça ne donne pas tel résultat lorsqu'on facture. Donc, ça va être important de vérifier vos états de compte, vérifier votre facturation, lire les bulletins que vous allez recevoir ou les communiqués que vous allez recevoir de la part de votre association et lire qu'est-ce qui va arriver de la RAMQ, autant pour l'addendum 6, l'addendum 13 pour les hématos que pour le programme Agir tôt pour les pédiatres. Et on sait qu'en pédiatrie, souvent, la facturation, c'est la partie qui est un petit peu négligée par nos clients pédiatres. Cette fois-ci, parlez-nous, appelez-nous et on va vous guider pour qu'on aille chercher l'argent auquel vous avez droit pour votre clientèle vulnérable que vous traitez.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Vanessa.
Plaisir.
C'est toujours un plaisir, comme d'habitude.
C'est un plaisir, Christina. Bonne journée.